Oui, j'irai. Waouh! L'homme à roulette! Des amis comme toi, ça me ferait pas de mal d'en avoir davantage. À ces mots, il s'immergea complètement sous l'eau et la mousse. De sorte que quand les enfants, suivis par Sœur Gloria, firent irruption dans la salle de bain aux accents de Madre, maintenant et à jamais, et autres sornettes, il n'y avait plus ni Hippie, ni Jésus. Alors où est-il? Demanda Sœur Gloria à Juan Diego. Je ne vois pas de garçon nu ici. Quel garçon nu? Elle n'avait pas fait attention aux bulles qui crevaient à la surface mousseuse, mais l'un des enfants à l'œil aigu les lui fit remarquer, et elle braqua aussitôt son regard dessus. C'est alors qu'un monstre marin se dressa sur les eaux écumeuses devant les petits. Endoctrinés comme ils l'étaient, ils durent voir dans ce hippie tatoué et son Christ en croix champouinée un monstre marin biblique. Et lui, selon toute probabilité, dut croire que le voir surgir des eaux du bain détendrait l'atmosphère. Peut-être qu'après son récit mélancolique, il souhaitait alléger l'humeur ambiante. Nous ne saurons jamais au juste quelles intentions il nourrissait quand il jaillit du fond de la baignoire en crachant de l'eau comme une baleine, bras en croix, à l'instar du Jésus mourant tatoué sur sa poitrine haletante. Quelle lubie s'était emparée du grand échalas? Qu'est-ce qui aurait pu l'inciter à se dresser debout dans la baignoire où il dominait tout le monde et attirait l'attention sur sa nudité? Nous ne saurons jamais à quoi il pensait, ni même s'il pensait d'ailleurs, le gringo n'étant pas réputé pour sa conduite rationnelle dans la Calle Saragossa. Disons, en toute honnêteté, qu'il s'était immergé à un moment où il était seul avec Juan Diego. Il était loin de se douter qu'il referait surface devant une multitude essentiellement constituée d'enfants de 5 ans qui croyaient en Jésus. Waouh! S'écria cette image de la crucifixion matinée du déluge. Quant à son mot unique, il semblait étranger aux oreilles des petits hispanophones. 4 ou 5 des enfants firent instantanément pipi dans leurs culottes. Une petite fille se mit à piailler si fort que plusieurs marmots se mordirent la langue. Les bambins qui se trouvaient le plus près de la porte traversèrent la chambre comme des fusées pour regagner le couloir en hurlant. Ceux qui n'espéraient pas pouvoir échapper au Christ Gringo tombèrent à genoux, qui pissant, qui pleurant, et se cachèrent le visage dans leurs mains. Un petit garçon s'agrippa si fort à l'une de ses camarades qu'elle lui mordit la joue. Sœur Gloria s'était raccrochée de justesse à la baignoire en sentant qu'elle s'évanouissait, mais le hippie christique, craignant qu'elle ne tombe, l'avait entourée de ses bras. Il ne sut balbutier que Waouh, ma sœur, avant qu'elle ne lui martèle la poitrine de ses poings. Elle asséna ainsi plusieurs coups sur la face torturée du Christ qui levait au ciel des yeux implorants, et quand elle découvrit avec horreur ce qu'elle était en train de faire, elle ne put qu'imiter cette attitude de supplication à son tour. Madre, s'écria-t-elle une dernière fois, comme si la Vierge Marie était sa seule confidente et son seul salut, son seul et unique guide, comme elle le répétait dans sa prière alternée. C'est alors que le gringo glissa et retomba à 4 pattes dans la baignoire, dont l'eau savonneuse déborda en inondant la salle de bain. Il eut la présence d'esprit de se tourner pour arrêter le robinet. La baignoire pourrait du moins se vider. Du coup, à mesure que le niveau baissait, les enfants que la peur avait cloués au sol virent émerger le drapeau américain déchiré sur le cul nu du Christ. Sœur Gloria le vit aussi, ce tatouage explicitement profane qui semblait insulter celui du Jésus en agonie. Portée d'instinct à réprouver ce spectacle, elle sentit qu'il en émanait une contradiction quasi satanique. À genoux sur le sol de la salle de bain, l'eau inondant ses cuisses, Juan Diego n'avait pas bougé. Tout autour de lui, les enfants s'étaient roulés en boule, trempés. Sans doute, parce qu'il avait déjà l'étoffe d'un écrivain, il songea aux troupes amphibies qui s'étaient fait massacrer en reprenant Corregidor, avec, dans leur rang, des garçons à peine sortis de l'enfance. Il pensait à la promesse faite au gentil gringo, et il palpitait comme on peut palpiter à 14 ans devant une vision du futur parfaitement irréaliste. Ahora y siempre, maintenant et à jamais, geignait l'un des marmots trempés. Maintenant et à jamais, reprit Juan Diego avec plus d'assurance. Il savait ce qu'il se promettait là, à savoir de saisir dorénavant toute perche porteuse d'avenir. Chapitre 14. Nada. Devant la classe d'Edouard Bonnechaux, dans le couloir, se dressait sur son piédestal un buste de la Vierge Marie avec une larme sur la joue. Il y avait souvent une tache rouge betterave sur l'autre. On aurait dit du sang. Toutes les semaines, Esperanza l'essuyait. La semaine suivante, la tache était revenue. « C'est peut-être du sang, après tout, » avait-elle confié à frère Pépé. « Impossible, » lui avait-il répondu. « On ne nous a rapporté aucun cas de stigmate à l'orphelinat. » Sur le palier intermédiaire entre le rez-de-chaussée et le premier étage, se trouvait une statue de saint Vincent de Paul, dans la veine « Laissez venir à moi les petits-enfants », avec deux bambins dans les bras. Esperanza avait signalé que du sang apparaissait sur l'ourlet de la pèlerine du saint. « J'en ai suivi toutes les semaines, mais la semaine suivante, il est revenu. Ça doit être du sang miraculeux. Impossible !» s'était borné à répéter Pépé. « Vous ne voyez pas ce que je vois !» lui avait rétorqué Esperanza en désignant ses yeux de braise. « Je ne sais pas ce que c'est, mais ça laisse une marque. » Ils avaient raison tous deux. Ce n'était pas du sang, non, mais la tache revenait bien toutes les semaines. Depuis l'épisode du gringo dans la baignoire, les gamins de la décharge devaient faire profil bas avec leur arnaque au jus de betterave. Ils avaient dû réduire leur visite nocturne sur la calle Saragossa. Seigneur Eduardo et frère Pépé, sans parler de sœur Gloria, cette sorcière, et des autres nonnes, les tenaient à l'œil. Et Lupe avait vu juste quant aux cadeaux qui seraient dans les moyens du hippie. Ils ne furent pas grandioses. Il avait sans nul doute marchandé au mieux les figurines religieuses qu'il avait achetées dans les boutiques de piété et de cotillon sur la calle Independencia. L'une des deux était une idole de la dimension d'une statuette, l'autre, la Vierge de Guadalupe, était grandeur nature. À vrai dire, elle était même un peu plus grande que Juan Diego, et c'était son cadeau. Son manteau bleu-vert, sorte de cape sans manches ou d'étole, correspondait à un vêtement traditionnel. Sa large ceinture, pièce d'étoffe noire, viendrait un jour étayer la supposition qu'elle était enceinte. Longtemps après, en 1999, le pape Jean-Paul II ferait d'elle la patronne des Amériques et la protectrice des enfants à naître. Ah, ce pape polonais et ses enfants à naître! La vierge de la boutique n'avait rien d'une femme enceinte. Elle paraissait très jeune, 15 ou 16 ans à peine, et elle avait des seins, des sacrés nibards qui lui donnaient une allure rien moins que pieuse. On dirait une poupée gonflable, s'écria Lupe à sa vue. C'était peut-être un peu exagéré, n'empêche qu'elle rappelait bien ses objets, même si Juan Diego ne pouvait ni la déshabiller ni faire bouger ses membres, et même si elle n'avait pas de partie génitale reconnaissable. « Et mon cadeau à moi ?» lança Lupe. Le brave gringo lui demanda si elle lui pardonnait d'avoir couché avec sa mère. « Oui, mais on ne pourra jamais se marier tous les deux. » « Ça m'a l'air bien définitif, » conclut le hippie lorsque Juan Diego lui eut traduit la réponse. « Fais-moi voir mon cadeau !» reprit Lupe. C'était une figurine qui représentait Coatlicue, hideuse à souhait. Juan Diego se disait que fort heureusement elle était petite, plus petite encore que Blancsal. Quant au gringo, il n'arrivait pas à prononcer le nom de la déesse aztèque, et Lupe essayait de l'y aider à sa manière, articulant farouchement « Coatlicue » sans qu'il y entende goutte. Juan Diego avait toujours eu du mal à croire qu'une même déesse puisse avoir des attributs aussi contradictoires. En revanche, il comprenait pourquoi Lupe adorait cette harpie. C'est que Coatlicue incarnait des extrêmes, déesse de l'enfantement et de l'impureté sexuelle, ainsi que des conduites répréhensibles, elle était liée à plusieurs mythes de création. Selon l'un d'eux, elle avait été engrossée par une boule de plume qui était tombée sur elle au moment où elle balayait un temple. Normal qu'elle l'ait mauvaise, se disait Juan Diego. Mais Lupe déclara qu'elle voyait très bien ce genre d'aventure arriver à leur mère, Esperanza. Contrairement à cette dernière, Coatlicue était vêtue d'une jupe de serpent. Son accoutrement était constitué de reptiles onduleux. Elle portait aussi un collier fait de cœurs, de mains et de crânes humains. Les doigts de ses mains et de ses pieds étaient griffus. Ses seins étaient flasques, avec des serpents à sonnette en guise de tétons. « Elle a trop allaité, peut-être, » observa Lupe. « Mais qu'est-ce qui te plaît tant chez elle ?» lui demanda un jour Juan Diego. « C'est que parmi ses enfants, il y en a qui ont juré de la tuer, » lui répondit-elle. « Una mujer difícil. » « Esperanza m'a dit que tu admirais cette drôle de déesse mère, » intervint le hippie. « Je l'adore. Coatlicue est une mère dévoratrice, » expliqua Juan Diego. « Elle est la matrice et la tombe. » Je vois ça, oui.